French Connection, l'épisode 65. Cette semaine, je suis avec Patrick.
Hey, salut!
Et nous allons parler de beaucoup de drama cette semaine dans le milieu. Nous allons aborder le fait que le Five Eyes s'oppose à la cryptographie d'une façon ou d'une autre. On va parler que les Russes s'ingèrent dans nos choses. Et finalement, on termine avec la Chine, qui s'ingère aussi dans nos choses, mais d'une autre façon. Ensuite, là, on va parler des Shameless Plug. 10 octobre, ISACA avec la gouvernance, la gestion des TI au gouvernement du Québec. Le 16 octobre, il y en a quand même deux en octobre, avec les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. C'est un sujet très intéressant. 25 octobre, le prochain Québec Sec, fait qu'on va adresser les sécurités dans les jeux vidéo. Le 2 et 3 novembre, à ne pas manquer le Hackfest, dans lequel Patrick va nous parler de quelques éléments particuliers.
Yes, on a les inscriptions du Social Engineering Contest qui sont ouvertes. Donc, si ça vous intéresse de participer, que ce soit votre première fois en tant que junior ou expert, peu importe, pour faire de l'ingénierie sociale, c'est le seul concours au Canada de ce type-là, qui est un peu similaire, voire presque une copie de celui-là au DEF CON aux États-Unis. Et qui a eu vraiment un bon succès l'année passée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire.
C'est ouvert à tout le monde. Puis c'est ouvert à tous.
Puis même cette année, on a rajouté les choses pour faire ça dans, comme il faut dans les règles. S'il y a des compagnies que vous ne pouvez pas faire de social engineering contre, que ce soit votre compagnie, vos clients, etc., vous les listez puis on ne vous fera pas faire d'attaque contre ces entreprises-là. Là.
Il faut aussi considérer qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Puis la plupart des jobs en sécurité, puis la mienne incluse, ont fait tôt ou tard du social engineering dans nos vies. Mm-hmm. Donc, de l'appliquer dans ces contextes-là, c'est un très bel exercice.
Exact. Puis le concours en tant que tel sert à sensibiliser nos entreprises à ce type d'attaque-là. Puis il faut le dire, là, au Québec, parler de social engineering, de phishing et autres, c'est très, très loin dans la liste. Donc, c'est un bon élément là, pour que le rapport sorte après le Hackfest, décrivant les réussites et les réussites d'attaque, mais aussi les réussites des entreprises qui bloquent. Parce que l'année passée, on a eu 2-3 participants qui n'ont même pas eu un point parce que les entreprises leur ont tout simplement raccroché au nez. Ce qui fait que c'est super. Donc, gênez-vous pas pour vous inscrire, là, c'est vraiment cool. Et même chose pour les formations mobile iOS. Web hacking, sécurité 102 et reverse engineering.
Plein de belles choses au Hackfest, ça va être super intéressant encore. Et cette année, encore une fois, je vais faire la captation vidéo de l'événement en entier, fait que ça va être super intéressant pour ceux qui ne pourront malheureusement pas se déplacer. Et ensuite, il y a le 22-23 janvier, le FIC à Lille, où je vais aller manger de la poutine avec Damien, ce qui risque d'être fort intéressant, et probablement qu'on va faire un live à ce moment-là. Et finalement, le 8 avril, Québec Numérique organise un nouvel événement de sécurité qui est le Sécure, dans lequel on rassemble toutes les organisations de sécurité de Québec ou les associations de sécurité de Québec dans un événement où on va pouvoir discuter de sécurité tous ensemble, ce qui est pas banal.
Yes.
Donc, commençons avec nos nouvelles. La première, c'est que le Five Eyes a soumis une forme de rapport sur le fait qu'ils veulent affaiblir ou changer la sécurité par rapport à la crypto en général. Puis ça émane souvent du fait que l'élément qu'on a beaucoup au niveau médiatique entendu, c'est que la police voulait voir passer à travers la crypto des iPhones pour leurs choses, mais malheureusement, à travers ces différentes choses-là, on n'a pas eu de communication qui nous permettait de comprendre la raison et l'objectif de cette manœuvre-là. Et lancer dans l'univers comme ça, c'est peut-être un peu troublant de vouloir affaiblir la cryptographie de cette façon-là. La plupart des grands ténors dans le domaine se sont fortement opposés.
Puis on c'est pas la première fois en plus.
Non, puis ça, c'est un sujet récurrent, ça revient régulièrement, ils reviennent toujours avec cet élément-là, comme quoi les forces de police veulent avoir une forme de skeleton key qui permette de bypasser la cryptographie.
Exact. La clé là, que les criminels ne trouveront jamais, évidemment, voyons.
Ben, c'est là tout le problème, parce que c'est à double tranchant, parce que d'un côté, oui, Puis je comprends le besoin légitime des corps de police pour, dans le cadre d'enquête, d'avoir accès à cette information-là, puis les aider à cheminer. Par contre, eux-mêmes se servent de la cryptographie pour protéger leur propre système et leur propre communication. Et de façon générale, ils vont utiliser des systèmes qui sont généralement grand public, donc les mêmes que les autres, donc ils vont être affaiblis par les mêmes mesures de sécurité qu'ils exigent pour de l'autre côté. Fait que, et comme
Ouais, ça marche pas vraiment. Puis, tu sais, ça revient. Je pense qu'on a fait même un épisode qui parlait de ça, là, 3, 4 mois, sur la conférence qui prend les RFC, puis qui les met en place, qui les approuve et tout. Puis, il y avait eu une mention justement du gouvernement américain pour mettre une clé spéciale pour tout décoder. Puis, ça avait été rejeté par tout le monde. Ça avait même été. Hué dans la foule, là, la vidéo ça avait promené, je pense que c'était sur C-SPAN ou quelque chose comme ça. Ça a été
Ben,
totalement rejeté dans les standards là, de sécurité. Là.
mais parce qu'on n'a pas de façon, si on avait une capacité, effectivement, parce que je comprends l'idée, mais on n'a pas de capacité technologique pour l'exécuter. Puis en ça, c'est sûr que c'est pour eux, c'est difficile, bien sûr, mais peut-être qu'il va falloir qu'ils changent leur procédure de perquisition ou la façon qu'obtiennent les mandats. Il y a plein de façons légales d'obtenir ça sans avoir une espèce de clé magique qui leur donne tout accès.
Ouais, puis
Mais
qui va briser le concept au complet pour la planète et pas juste pour 2, 3 personnes. Puis si on mentionne le cas justement qu'il y avait eu de qui voulait avoir accès au iPhone, il avait acheté un logiciel en Europe, quoi que ce soit, là, pour briser l'iPhone. Ça leur avait coûté 1 million, il avait eu accès. Puis c'est environ 2 mois après qu'il y avait un exploit qui était sorti qui leur permettait de faire la même chose gratuitement. Il y a toujours une manière de bypasser. C'est sûr que c'était pas parfait, mais s'il n'avait pas payé et il avait attendu, il aurait quand même eu accès à l'information.
ouais, puis de l'autre côté, c'est comme si c'était l'espèce de façon facile d'obtenir toute l'information qu'ils avaient besoin de faire leur enquête, quand que de toute façon, avant qu'on ait des cellulaires comme on en a maintenant, il y avait d'autres façons d'obtenir l'information pour alimenter leurs enquêtes. Fait que je sais pas.
Ouais, exact.
Puis, en mon sens, c'est un problème de communication de leur part parce que ils diffusent pas les raisons clairement pourquoi ils veulent aller dans cette direction-là. S'ils expliquaient, tu sais, OK, voici nos contraintes, voici dans qu'est-ce qu'on vit, voici notre problématique, ben, ça serait peut-être plus facile à vendre l'idée qu'on veut aller dans cette direction-là, ou en tout cas trouver une façon d'y adhérer. Mais ultimement, la façon qu'ils disent juste de, ouais, on veut avoir accès, mais ça avait juste comme ostratiser tous ceux qui se défendent. Fait que là, on vient de comme radicaliser tous
Ouais.
les défenseurs de la vie privée
Exact.
sur des choses qui peut-être sont légitimes et fondamentales. Fait que
Ouais, ça fait très Big Brother en plus. L'approche est vraiment pas la bonne.
ouais, il y aurait d'autres façons d'arriver à leur chose, puis à régler leurs problèmes d'enquête aussi. Fait que c'est peut-être un problème de communication entre deux univers qui ne se comprennent pas. Fait qu'on va passer à la nouvelle suivante. Et là, c'est la Russie. Là, on a eu une série de nouvelles cette semaine qui essentiellement faisait mention que la Russie met ses gros doigts dans les systèmes des pays étrangers, maintenant plus en cybersécurité. Puis ça a créé un certain émoi, je pense, dans le grand public de
Disons le drama.
ouais, drama, ça crée du drama dans la chose, puisque de toute façon, pour nous, en sécurité, c'était déjà relativement connu que le dé d'attribution, il y avait une face qui était donnée à la Russie.
Peut-être même deux des fois, mais tu sais,
Ça dépend des sujets, oui.
il y a tellement rien de nouveau, comme tu expliques, de nouveau dans ça pour nous. Mais vu que ça fait la manchette grand public, ben là, le monde sont terrifiés un peu. Oh, ils font ça pour vrai. Mais ça fait quoi, là? 10 ans qu'il y a des dés d'attribution pour rire de Russie là-dedans. Mais c'est vrai, là, je veux dire, ils le font.
Ouais, ben c'est ça, on en riait avant, maintenant c'est comme rendu sérieux, puis c'est rendu grand public. Fait que, tu sais, je suis pas étonné, mais tu sais, ils sont bons dans ce qu'ils font, puis c'est ça qui est terrible dans tout ça. Puis en tant que pays occidentaux, parce que il semblerait que tous les pays occidentaux sont touchés par ça, On fait comme si on ne savait pas. C'est comme si nos gouvernements ne savaient pas que les Russes ont des intérêts qui ne sont pas compatibles avec les nôtres.
Puis pas juste ça, c'est comme, oh, la Russie fait de l'espionnage. Mais en même temps, je dis, hey, le Canada en fait aussi, là. Allô? Il n'y a rien, y a rien de spécial, là.
Ouais, c'est ça, on en fait tous. Fait que je ne comprends pas un peu la nature de ce drama-là. Puis ça fait des lustres qu'on éjecte des diplomates parce qu'on pense qu'il
y a... Ah oui, il y a eu des nouvelles là-dessus, je pense, il y a un mois durant l'été, là. Et ils en ont pitché une gang aux États-Unis qui les ont retournés en Russie. Ça a fait un émoi, blablabla. Ils étaient fâchés, mais il n'y a rien... Rien de nouveau dans ça.
Non, il n'y a rien de nouveau, mais ce qui est drôle, c'est que les Russes utilisent nos moyens de communication contre nous. Fait que là, fait que, non, on ne ferait jamais ça, on est de bons garçons. Ouais. Hein.
Ils non, vont on pas les bons garçons. Facebook presque.
c'est fascinant parce que dire, on n'est pas plus. Je ne veux pas dire que ni le Canada ni les États-Unis, on n'est pas exempt de ce genre de manœuvre-là qu'on fait dans le monde. Puis probablement que les Américains sont excessivement puissants dans ce genre de choses-là, mais c'est de l'espionnage. Comme ça fait probablement plus que 100 ans qu'on fait, et probablement de façon normée qu'on le fait actuellement, ça fait plus que 100 ans que ça se fait. Fait que là, je comprends pas pourquoi on déchire notre chemin sur la scène publique, pourquoi on fait que oui, mais là, c'est mal, on a éjecté les diplomates de machin, mais oui, mais...
Ouais, mais c'est un peu comme le prochain sujet qu'on va parler. Je pense que c'est vraiment relié à un certain PR pour gagner des intérêts politiques quelconques, lesquels, je sais pas, mais...
Mais la
nouvelle n'est pas là. C'est vraiment que c'est un pour avoir un certain pouvoir médiatique, mais c'est louche.
Mais les Russes ont compris. Je lève mon chapeau. Ils ont compris comment faire. Puis quand on dit, peu importe ce qui va sortir du fait de l'enquête sur le fait que les Russes ont intervenu dans l'élection américaine, indépendant de ça, je lève mon chapeau. Ils sont bons là-dedans.
Mm-hmm.
Ouais. Où je suis outré, c'est qu'en tant que citoyen du moins du Canada ou d'Amérique du Nord, c'est que nos pays n'ont pas pris des mesures sérieuses et légitimes face à cette action-là.
Ouais.
Parce que
personne n'a pensé que, je pense, il y a quelques années, que ça allait être utilisé dans ce sens-là, que ça allait avoir autant de pouvoir, en fait, là. Si on parle aux plateformes de
société. Et ça, tu dis ça quand on sait pertinemment que les grands partis politiques ont des engins avec des
AI c'est fou, hein?
pour manipuler l'audience et les électeurs. Et qu'est-ce qui empêche un pays tiers d'avoir la même chose qu'on utilise à l'interne pour influencer le vote?
Exact. Puis, tu sais, très local, là, même Québec, puis c'est sûr que c'est la même chose en France. Les partis politiques payent des plateformes à la Facebook. En fait, c'est une plateforme qui fait de la consolidation Facebook, Twitter et autres pour savoir qui pense quoi à quel endroit. Là. C'est un sommaire carrément des réseaux sociaux. Ils font gagner les participants, mais notre sécurité publique ne pense pas... ou en tout cas, en 2004-2008, n'ont pas pensé que ça allait être utile à ça. Ce qui peut être le cas, techniquement, v'là 10-15 ans.
C'est comme genre les partis politiques qui veulent se faire élire utilisent des techniques qui peuvent être discutables dans certains égards, mais qui fonctionnent en tout. Parce qu'on l'a vu aux États-Unis, ouais. On le voit au Canada, puis on l'a en Europe, parce qu'on est. Il faut demander à Damien, mais j'ai l'impression que ça fonctionne très bien en Europe aussi.
Ça fait du sens.
Et pourquoi les Russes, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, whatever, autre pays qui a des intérêts à manipuler notre économie, qui a des intérêts à manipuler notre opinion, ne sont pas les mêmes moyens.
Ouais,
on le fait à l'interne.
La même plateforme, exact. Avec les mêmes données qui sont utiles.
Cambridge Analytica, c'est un élément qui a servi et qui est ça. Fait que, tu sais, ah là là. Que de drama pour des choses qu'on savait déjà, mais j'ai l'impression qu'on fait plus de la guerre de PR que de la guerre cybernétique.
Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, à certains niveaux, le concept de cyberguerre ou hacking et autres ne se rend pas si loin que ça dans les gouvernements. Ça peut paraître que oui dans les médias, mais c'est pas toujours le cas. Puis si on parle même de mes prochains points, c'est que le Canada vient de mettre en place un centre de cyber sécurité et hacking là, sous le CSI qui sont justement partenaires au Hackfest. Il n'y a absolument, techniquement, rien de nouveau là non plus. Je veux dire, les États-Unis ont ça en place depuis à peu près, quoi, 2004, 2008. DARPA existe, DHS existe. Puis là, 2018, hey, on a un centre qui regroupe toutes les choses de sécurité au Canada.
Ouais,
Puis,
mais
c'est pas juste
encore là
ça,
ce
je
que je.
dirais, même au niveau des forces canadiennes, tout le power plus offensif. L'équipe de sécurité ou d'attaque qui sont en train de monter, ils la montent depuis environ 6 mois. Donc,
Mais ce que je trouve
ouais.
étrange dans tout ça, c'est que le cyber,
Sont encore ça comme un domaine, là. Ouais.
sont considérés comme un domaine, c'est juste un moyen. C'est-à-dire, on utilise les mêmes tactiques, les mêmes éléments. Il n'y a pas beaucoup d'inventions, là, ce qu'on fait dans le
Non,
cyber.
la grosse partie cyber, mettons, pour être avancé côté compétition entre pays ou compagnie, généralement, c'est au niveau de la recherche pour trouver des bugs dans des systèmes que les autres utilisent. Ça, c'est la partie différente. Le reste, c'est l'application de quelque chose. Mais je veux dire, tu trouveras pas un bug, tu sais, sur une plaine avec des arbres, là. Mais tu vas en trouver
Non,
dans
mais on trouve pas un bug, mais c'est parce qu'il y a eu des gens, il y a fort longtemps, qui ont réfléchi à comment utiliser les différences dans le monde physique pour réussir à leur avantage. On a juste à lire le Sun Tzu, Art of War, pour avoir une conscience que les Chinois ont réfléchi longtemps à trouver des façons stratégiques d'utiliser le terrain à leur avantage. Mais le terrain, c'est rendu du cyber.
C'est
Fait
ça,
que trouver un
c'est
bug.
le moyen et le terrain maintenant. Tu as raison. Puis ce moyen-là appuie aussi le terrain quand quelqu'un est physiquement quelque part. Ben, tu as moyen de rentrer soit dans des caméras ou whatever, dropper des clés USB pour pirater des réacteurs nucléaires, you know.
Par exemple, mais en même temps, tout ça, c'est une fiction. C'est inventer une fiction dans laquelle on ne contrôle plus. C'est ça qui est terrible. On s'est inventé un terrain dans lequel on n'a aucun contrôle, puis qu'on
Qui
n'importe
n'a pas
qui
été
peut
pensé pour toi.
improviser.
Si on revient à la base, puis on le dit souvent, hein, mais ça a été développé pour partager de l'info entre un point A puis B, qui est devenu A et B, il y a eu 26, 34 points, puis après ça, c'est devenu des milliards, mais là, ils l'ont échappé. Hein. Puis la joke qu'il y a eu durant l'été, c'était que les deux créateurs du HTTP qui disent c'est pas nous les inventeurs, parce qu'ils rejettent totalement le pourquoi que c'est utilisé aujourd'hui. Une pub très drôle, mais en même temps, c'est vrai. Tu sais, les gars n'ont pas inventé ça pour que ce soit ce que c'est aujourd'hui. Puis on va penser à la sécurité parce que c'était pas ça le point.
Non, mais ça, c'est effectivement un autre univers. Fait qu'on est en train de dévier. On revient à ça, mais c'est un nouveau domaine. C'est une nouvelle
Yes.
façon de faire la guerre. C'est une nouvelle façon de faire les choses. J'imagine qu'il faudrait arrêter de se soustraire. Seul problème, c'est qu'on n'a peut-être pas de convention de Genève qui, au niveau de
Yeah.
la guerre
Cool.
conventionnelle, vient comme encadrer le fait qu'on n'attaque pas des civils, qu'on attaque. Il y a un certain nombre de choses qui. Dans le cyber, ça n'existe pas. Fait qu'à l'heure actuelle, on attaque des équipements civils, on va attaquer des générateurs d'électricité, on va attaquer des choses qui, selon le Conseil de Genève, devraient être inatteignables normalement.
Oui, exact. Par défaut, tu ne verras pas quelqu'un aller mettre une bombe sur une centrale ailleurs pour la briser,
Ouais.
mais ils vont sûrement mettre du code malicieux pour y aller, par exemple.
Fait que c'est ça, fait que les règles d'engagement ont changé avec ça. Fait que ça serait peut-être une réflexion à avoir pour limiter ce genre de choses-là. Et ce qui nous fait glisser tranquillement vers le dernier sujet, qui est la Chine. Fait qu'on était vraiment dans un contexte géographique, sous des notions très hostiles à l'Occident. Et ce qui est fait le drama de cette semaine, c'est, bon, en tout cas, pour moi, de la diffusion peut-être la semaine dernière, c'est que la Chine aurait supposément mis un chip sur les motherboards de Supermicro qui finalement réussissait à renvoyer de l'information vers la Chine. Et ce que toutes les pressions de sécurité agitent depuis plusieurs années se réalise, se concrétise, mais les médias sont outrés.
Ouais, tout le monde est viré fou avec cette nouvelle-là. Puis on l'a mis justement dans les show notes, des photos qui datent de, on n'est pas sûr, là, on s'estimait au début, mais entre 10 et 20 ans. Ça a déjà été fait, il n'y a rien de nouveau encore une fois. Mais là, c'est un beau scénario qui est plus de cyberguerre avec des grandes entreprises qui ont plus d'argent. Puis les médias sont au courant de la cybersécurité plus que v'là 15 ans. Donc, ça fait du beau drama, ouais.
Vraiment un gros drama. Puis, tu sais, pour ce qui est de ma part, j'ai quand même lu beaucoup de nouvelles à ce sujet-là. Puis, j'ai rien trouvé comme procès scrutin qui m'a satisfait comme information que j'ai réussi à obtenir parce que c'est juste du oui-dire. Oui, j'ai entendu dire, oui, j'ai ça, oui, j'ai ci.
C'est beaucoup d'entrevues qu'ils ont faites avec des personnes qui sont assises dans ces positions-là. Là.
Ouais, entre autres, mais même encore là, l'information que j'ai lue n'est pas satisfaisante au niveau de la profondeur, au niveau de la crédibilité que c'est dans le
jeu. Exact.
Je doute pas du fait qu'il y ait des chips que la Chine a mis, puis ça, c'est normal. Puis qu'il ne l'ait pas fait avant ou qu'on ne l'ait pas su avant, c'est peut-être shame on us. On était peut-être un peu trop nono pour voir ça arriver parce que c'est clair qu'elle allait finalement faire l'affaire à un moment donné parce que leurs intérêts ne sont pas liés avec les nôtres.
Exact.
C'est banal que ça.
Puis un des points drôles ou intéressants par rapport à ça, tu sais, la chip qu'ils ont insérée, puis le côté impressionnant, c'est qu'elle est miniature, là, ça fait ramasser un signal à un certain endroit, puis ça le chip sur un serveur en Chine. Oui, c'est intense, c'est spécial, blablabla, mais en même temps, côté hacking, c'est juste un élément différent qui fait un envoi de données à l'intérieur d'un réseau. Que ce soit du matériel comme ça qui est une chip, ou un malware, c'est la même chose, ça se détecte de la même manière. Il n'y a rien de très magique. La plupart des entreprises, justement comme Apple, qui en ont détecté, c'est parce qu'ils font de l'analyse réseau puis qu'ils voient qu'il y a du transfert de données qui vont vers des endroits non supposés, qui sont pas, t'sais, qui n'ont pas de service qui disent « Hey, on envoie nos données en Chine », puis là, il y a du trafic qui s'en va par là, fait qu'ils le détectent. Mais ça prouve en même temps que ce type d'attaque-là, que ce soit une chip ou pas du tout, elle se détecte pareillement. Si tu as des services de journaux, de détection, de incident response et tout, ça va embarquer dans ton flow normal. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont supposées de le détecter comme ça. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas un domaine, c'est pas une technique de sécurité qui est nouvelle. C'était pas... La seule chose de différence, c'est que c'est la chip qui est cool. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, puis il aurait réussi la même chose.
Oui, mais un simple keylogger aurait fait la même affaire.
Ouais. Même,
on est rendu avec des keyloggers avec du Wi-Fi.
C'est
Damien qui nous montrait ça la semaine dernière ou l'autre. Un keylogger USB qui broadcast en Wi-Fi toutes les touches qui sont tapées par le clavier. Fait que c'est une scène où on est rendu, puis faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Puis ça, en ça, je lève mon chapeau. Si on suppose que c'est Apple qui a découvert le fameux problème selon les nouvelles qui ont été diffusées, chapeau à leur équipe de OPSEC parce qu'ils ont réussi à attraper des choses que probablement que la plupart des places n'auraient pas réussi à avoir parce qu'ils ne sont peut-être pas outillés à cette hauteur-là.
Ils
ne
sont pas outillés, mais ça montre à quel point qu'on n'est pas là en sécurité, tu sais. Qu'on a un gros manque. Puis c'est pas parce que tu as un SOC ou un NOC ou whatever que c'est facile de détecter ces choses-là. Sur papier, c'est super simple. Mais de le réaliser comme, mettons, Apple a réussi, ça demande énormément de processus, de techniques, d'outils, puis de l'équipe qui sache qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est clairement pas toutes nos organisations qui ont ça, là. Que ce soit le gouvernement ou privé, puis les PME, on oublie ça. La plupart ont tout simplement rien. Puis qu'on parle de super micro des ordinateurs, des serveurs, qui achète ça? Bien, souvent, c'est des petites PME ou des personnes sur le site parce qu'ils valent pas cher sur eBay et Amazon. Là. Fait qui a des puces qui se font voler de l'information présentement sur de la revente de ces machines-là? Peut-être beaucoup d'entreprises, on ne sait pas.
Ah, c'est quelque chose d'assez intense, puis ça prend beaucoup d'argent, puisque si je lève mon chapeau à Apple pour avoir détecté ça, c'est une chose. Mais ce qu'ils ont fait exige énormément d'argent, de connaissances et de temps. Là. C'est pas
non, c'est pas magique, là. Puis c'est pas un bouton rouge qui flash sur un écran comme dans un film. Là.
Ça prend du monde vraiment intense, dédié, qui font ce genre de choses-là. Fait que c'est puis un.
Exact, c'est une copie.
En quelques secondes.
C'est un peu la campagne de la fin des années 90, là, qui était assez drôle. Voler, c'est la même chose que de voler une voiture, mais quand il parlait de voler des logiciels, fait que c'était, la pub, c'était un peu comme tu voleras pas, tu copieras pas une voiture ou une affaire du genre. Mais à cette heure, la joke, c'est que tu prends une imprimante 3D et tu le fais, là, mais. L'affaire, c'est que les données se copient et ils ne sont pas jamais volées. Ils disparaissent pas. Fait qu'il y a personne qui voit ce qui se passe. Ou en tout cas, pas facilement. C'est intéressant. Mais l'autre point qui est intéressant, si vous voulez regarder plus politique, puis on l'a mis dans les show notes, c'est le rapport de la Maison-Blanche aux États-Unis qui va parler de la compétition de la Chine qui fait justement de ce qu'on vient de dire, de tout copier et de revendre l'information ou de faire de la compétition déloyale. Ben tout ça peut-être est simplement relié à ce fait-là, mais je pense pas qu'on va le savoir rapidement, ça. Le tout de pourquoi ça a leaké, puis pourquoi dans les médias on n'a pas de détails très techniques ou très avancés.
Ouais, puis le timing des annonces est étrange parce que ça cadre avec la campagne que Trump fait contre la Chine. Donc, c'est sûr qu'il y a clairement un intérêt des États-Unis à divulguer cette information-là à ce moment-ci pour d'autres raisons. Parce que si on se base sur l'article de Bloomberg, une espèce de whistleblower dans le contexte, ça fait au moins 2 ans que c'est connu. Puisque ça fait 2 ans que c'est connu puis que ça sort là, qu'est-ce que les timings sont...
C'est là
que
je pitié le rapport que je vous parle là dans les show notes, il date du mois de juin de cette année. Là. Donc, c'est là 2-3 mois. C'est connu avant ça. Les nouvelles sortent après quand il y a un gros push politique sur tout ce qui touche la Chine. On dit pas que c'est une coïncidence, mais c'est pas mal ça. Là.
Mettons qu'on a certaines réflexions à avoir comme société sur où on s'en va avec ce genre de choses-là.
Tout à fait. Mais ça, c'est pour un autre sujet avec une autre clientèle. I bring chaos, I bring destruction. My iron body is invincible mind. My heart is dead, I lack compassion. I will tell you why.